Vous écoutez France Culture, il est 18h. Et le journal de la rédaction vous est donc présenté par Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Carles Puigdemont sera présenté demain à un juge en Allemagne où il était arrêté à la mi-journée. À Barcelone, manifestation de soutien en ce moment même à l'ancien président indépendantiste. Mathieu de Taillac en direct de Madrid dans un instant. Également au sommaire de ce journal, les enjeux de la visite au Proche-Orient de Jean-Yves Le Drian, correspondance de Marine Vlaovic. Antifasciste versus identitaire de la Ligue du Midi à Montpellier, 48 heures après une expédition punitive menée dans un amphithéâtre de la faculté de droit de Montpellier. Précision d'Eva Gennac, nous serons en ligne avec le sociologue Samuel Bourron qui a infiltré des groupes identitaires. S'agit-il de la fin de l'aventure indépendantiste menée par Carles Puigdemont? Le leader a bien été arrêté à la mi-journée en Allemagne, peu après avoir franchi la frontière danoise. Carles Puigdemont était ces dernières semaines en Finlande, après avoir séjourné en Belgique. Il envisageait d'ailleurs d'y revenir en Belgique. Bonsoir Mathieu de Taillac.
Bonsoir Mathieu.
Mathieu, vous êtes à Madrid. Arrestation, semblerait-il, grâce au bon travail des services secrets espagnols?
Oui, c'est le Centro Nacional de Inteligencia, le CNI, qui s'est occupé de suivre de près les mouvements de Puigdemont, et ce, depuis qu'il s'est installé en Belgique fin octobre. Alors, le travail des agents s'est renforcé, bien sûr, vendredi, c'est quand le juge d'instruction a réactivé le mandat d'arrêt européen contre Puigdemont et contre d'autres responsables indépendantistes. Alors, selon le récit du journal El País, entre 10 et 12 personnes suivaient Puigdemont. Ils ont attendu qu'ils partent de Finlande par bateau, probablement vers la Suède, puis qu'ils prennent une voiture vers le Danemark. Une fois qu'il était au Danemark, où précisément le CNI avait installé son quartier général, les agents ont envisagé de le faire arrêter, mais une fois qu'ils ont été sûrs que Puigdemont passerait par l'Espagne, ils ont préféré attendre encore un peu, parce que l'Allemagne est considérée comme le pays avec laquelle la coopération policière et judiciaire est la meilleure. Les agents du CNI ont assisté la police allemande, certains étaient présents à la station-service où la voiture de Puigdemont s'est arrêtée, et les policiers allemands n'ont eu qu'à le cueillir comme un fruit mûr.
Mathieu, cette semaine a été redoutable pour l'élite politique indépendantiste catalane.
Ah oui, c'est le moins qu'on le puisse dire. Je vais vous faire le décompte rapidement. Aujourd'hui, 9 ex-dirigeants sécessionnistes sont placés en détention provisoire dans des prisons à Madrid. Parmi eux, il y a un ex-vice-président, il y a des ex-ministres régionaux, les dirigeants des deux grandes associations indépendantistes. Il y a aussi Jordi Turull, qui jeudi encore était candidat à l'investiture pour succéder à Puigdemont. Et puis, ce dernier, Puigdemont, pourrait les rejoindre quand la justice allemande aura statué sur son sort. Ça peut prendre à peu près 2 mois. Enfin, 5 autres sécessionnistes, dont des anciens ministres régionaux encore, et une chef de parti sont installés en Belgique, en Royaume-Uni et en Suisse. Ils sont sous le coup de mandats d'arrêt et ils pourraient se retrouver dans la même situation. Alors bien sûr, il reste encore des députés indépendantistes à Barcelone, ils sont même majoritaires au Parlement catalan, mais ils vont devoir prendre une décision. Soit ils poursuivent la stratégie de confrontation, ça risque de déboucher sur de nouvelles élections anticipées en juillet, soit ils cherchent un candidat de consensus, tentent d'élargir leur soutien en regardant par exemple à gauche. Podemos a affirmé sa disposition à explorer de nouvelles alliances qui dépasseraient les blocs indépendantistes versus unionistes.
Merci à vous Mathieu de Taillac en direct de Madrid. Le président turc fixe un nouvel objectif à ses troupes. Recep Tayyip Erdogan ambitionne de prendre la ville de Tal Rifat, localité du nord syrien, située une trentaine de kilomètres à l'est d'Afrin. Afrin conquise par Ankara le 18 mars dernier. Le porte-parole du Kremlin étrit Londres qui aurait fait montre, ce sont les termes de Dmitri Peskov, d'une muflerie inédite en accusant Moscou d'être très probablement derrière l'empoisonnement sur le sol britannique de l'ex-espion russe Sergueï Skripal. Rien de tel en vue pour le chef de la diplomatie française en visite au Proche-Orient. Jean-Yves Le Drian arrive ce soir tard en Israël dans un contexte tout de même quelque peu embarrassant. Marine Vlaovic nous appelle de Jérusalem.
Sur l'affaire du chauffeur du consulat général de France à Jérusalem, inculpé en début de semaine pour trafic d'armes entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, le Quai d'Orsay s'est contenté des habituelles déclarations en indiquant que c'est une affaire prise au sérieux et que le ministère est en lien constant sur le sujet avec les autorités israéliennes. Car la diplomatie française a de quoi être gênée aux entournures. Ce scandale touche un symbole, celui d'une représentation diplomatique en charge des territoires palestiniens occupés et qui dépend directement gouvernement du ministère des Affaires étrangères. Un symbole fragilisé depuis la révélation de l'affaire. Certains Israéliens, ou plus étonnant, des Franco-Israéliens, n'ont pas hésité à demander le placement de ce consulat général sous tutelle de l'ambassade de France à Tel Aviv, ou encore à demander le déménagement de l'ambassade de France à Jérusalem. La visite de Jean-Yves Le Drian sera peut-être l'occasion de réaffirmer la position française sur le règlement du conflit israélo-palestinien, à savoir une solution à deux États avec Jérusalem-Est comme capitale d'un futur État palestinien. Mais il sera difficile dans ce contexte de s'affirmer comme un médiateur entre les deux parties, si tant est que la France ait envie de jouer ce rôle.
Marine Vlahovic, à Jérusalem, les 105 jeunes filles capturées le 19 février dernier par la secte islamiste Boko Haram ont enfin retrouvé leur famille. Leur convoi, escorté par l'armée nigériane, est entré à Dapchi, dans le nord-est du pays, en début d'après-midi. L'Union européenne s'inquiète encore et toujours de l'aggravation de la crise humanitaire en République démocratique du Congo. Bruxelles, qui coprésidera avec l'ONU une conférence des donateurs le 14 avril prochain à Genève, s'indigne du refus de Kinshasa d'y participer. Kinshasa estime que rien ne mérite pareil alarmisme. Stéphane Poussier, ex-candidat aux législatives pour la France insoumise et depuis quelques heures exclu du parti, est toujours en garde à vue pour apologie de terrorisme. Il s'était réjoui dans un tweet de la mort du lieutenant-colonel Beltrame tué à Trèbes. À Trèbes, ce matin, messe hommage dédiée aux 4 morts et 15 blessés des attaques terroristes d'avant-hier. Extrait du message délivré par le curé Philippe Guittard. Il faut aider les gens à apprendre à vivre ensemble, pas malgré leurs différences, mais avec leurs différences. Fin de citation. Manuel Valls a nommé, lui, nos adversaires. Nos adversaires à lancer l'ancien Premier ministre, ce sont les salafistes, les frères musulmans et l'islam politique. Fin de citation. Malgré des barrages et dans un climat social toujours aussi abîmé, le second tour de la législative partielle de Mayotte s'est déroulé sans incident majeur. Par ailleurs, le comité de coordination des élus de Lille annonce que les services publics des collectivités rouvriront demain et appelle les parents à envisager le retour des enfants dans les écoles. Les violences de la nuit de jeudi à vendredi dans un amphithéâtre de la faculté de droit de Montpellier ont nourri insultes et invectives entre antifascistes et membres de la Ligue du Midi devant la préfecture de l'Hérault, toujours à Montpellier. C'était à la mi-journée. S'agissant de cette expédition punitive de jeudi soir, aucune certitude. L'enquête est en cours. D'ailleurs, le président de l'université n'a pas attendu des conclusions de la dite enquête pour prendre une décision lourde, Eva Gennac.
Oui, demain matin, les portes de la faculté de droit de Montpellier resteront fermées. Le président de l'université a préféré jouer la prudence et éviter ainsi tout risque de débordement. Depuis jeudi soir et l'évacuation de l'amphithéâtre par une douzaine d'hommes armés de palettes de bois, la tension est palpable sur les réseaux sociaux. Plusieurs étudiants ayant vécu la scène dénoncent l'intervention d'une milice fasciste et la présence parmi les membres du commando de militants identitaires d'extrême droite. Pour l'instant, vous l'avez dit, l'enquête n'a pas permis d'identifier les auteurs des violences qui, rappelons-le, étaient masquées, mais sur certains sites extrémistes, en tout cas, on soutient l'action. On félicite même le commando d'avoir, je cite, infligé une bonne raclée à la vermine gaucho. C'est dans ce contexte que 200 militants antifascistes se sont réunis en fin de matinée devant la préfecture de l'Hérault. Ils ont déployé une banderole avec ces mots inscrits à l'encre rouge « Facho, ni dans nos facs, ni dans nos rues ». Un peu plus loin se trouvait une trentaine de militants de la Ligue du Sud, un groupuscule identitaire. La situation ne s'est calmée que grâce au déploiement de la police anti-émeute. C'est donc pour éviter cela que la faculté de droit restera fermée. Demain, le président de l'université espère un retour rapide à la normale, mais la protestation étudiante, elle, s'étend. Elle commence à gagner d'autres villes en France, comme à Lille, où un syndicat a appelé au rassemblement mercredi en soutien aux étudiants montpelliérains.
Merci à vous, Eva Gennac. Nous sommes en ligne, comme convenu, avec Samuel Bourron. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à Dauphine et si on a fait appel à vous, c'est que vous avez travaillé sur les mouvements identitaires. Mouvements identitaires d'ailleurs que vous avez infiltrés pendant près d'un an pour comprendre quelles formations reçoivent les recrues. Alors la Ligue du Midi, Samuel Bourron, mouvement identitaire avec quel contenu et quelle visée politique ?
Eh bien, je dirais que sur le fond, c'est un mouvement identitaire, tout ce qu'il y a de plus classique, si ce n'est qu'elle a une histoire un petit peu mouvementée parce qu'il y a eu des des tensions internes au sein des identitaires, ce qui fait que la Ligue du Midi a une autonomie en fait par rapport aux autres mouvements. Elle fait son propre jeu. Mais après, c'est structuré à peu près comme tout mouvement identitaire, hein, c'est-à-dire que il y a cette idée qu'il y aurait un déclin en fait de la civilisation et donc il faudrait restaurer ce qui serait les racines hein, mythifiées de la France, des régions, etc. Et en cela, c'est vrai qu'il y a toute une activité de formation des militants qui est extrêmement importante et qui vise à former un petit peu un homme nouveau hein, dans la tradition fasciste et qui passe beaucoup par des mouvements et une activité militante très physique, très masculine, qui passe par les sports de combat et qui passe aussi par une activité de ce qu'ils appellent la métapolitique.
Alors attendez, vous dites physique, donc viriliste, avec une dominante viriliste.
Oui, tout à fait. Dans l'actualité, c'est-à-dire l'attaque d'un amphithéâtre à Montpellier, en fait, il y a que des hommes, il y avait une dizaine de jeunes hommes, c'est pas du tout neutre, en fait. C'est-à-dire que ce sont des mouvements qui sont composés à très grande majorité d'hommes. Et pour moi, c'est pas neutre parce que ce sont des mouvements qui mobilisent des dispositions qui sont en fait virilistes. En fait, moi, dans cette expérience qui a consisté à voir de l'intérieur ces mouvements. J'ai participé donc à la formation de ces militants et en fait l'activité, une des activités principales de ces militants, en fait, c'est faire de la boxe, c'est les rites d'institution, c'est-à-dire l'entrée dans ces mouvements est conditionnée au fait de savoir se battre ou de se battre au moins une fois contre un adversaire politique ou un ennemi politique. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important à la Oui, je vous en prie.
Non, je vous en prie. On a bien compris qu'il y avait une dominante viriliste et qu'il fallait se confronter à tout prix. Mais je voudrais que vous entendre sur ce qui s'est passé ces dernières semaines et tout à fait récemment avec le bastion social, 5 pas de porte ouverts, l'un ouvert il y a très peu de temps d'ailleurs à Marseille, il y a 2 jours. Et là, on est dans une logique d'apparition, d'affichage avec une enseigne. Comment vous comprenez, vous qui travaillez aussi sur la sociologie des mouvements d'extrême droite, comment vous comprenez cette manière de s'afficher?
Donc le Bastion Social, c'est un groupe politique qui est un peu dans la lignée du GUD hein, et qui prend beaucoup exemple sur Casapomme, sur ce qui se passe en Italie. C'est assez intéressant parce que c'est un peu un fascisme new look, hein, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins sur des militants qui ont le crâne rasé, qui ont tout un attirail qui fait peur, on pourrait dire. Là, on a plutôt des étudiants ou des jeunes hommes qui se présentent comme des gentlemen et qui font de la métapolitique, hein, c'est-à-dire qu'ils vont par exemple servir une soupe aux SDF selon eux français, avec du cochon par exemple à l'intérieur, ce qui exclut de fait les SDF musulmans. C'est-à-dire que c'est par l'action concrète qu'on va essayer de diffuser des idées et tout une espèce d'ordre symbolique qui est derrière et qui vise à opposer ce qui serait les Français de souche et ce qui serait les étrangers, ceux qui seraient enracinés et les autres.
Samuel Bourron, le temps nous est compté malheureusement. D'un mot, au finissant, quelle stratégie de communication sur les réseaux sociaux pour ces mouvements identitaires et fascistes?
En fait, la grosse nouveauté des réseaux sociaux, c'est la possibilité pour eux, en fait, de mieux contrôler leur image et de pas avoir à dialoguer avec les journalistes et d'essayer de diffuser par des vidéos, par des images, toute une imagerie, une esthétique qui favorise l'identification du public. La nouveauté avec aussi les réseaux sociaux, c'est la possibilité pour eux, en fait, de se mobiliser. Et dans le contexte d'aujourd'hui, ce qui me semble extrêmement important, c'est que, en fait, on a eu successivement des attaques du lycée autogéré à Paris, ici d'un amphithéâtre à Montpellier, et en fait, c'est pas du tout neutre parce qu'on est dans un contexte où, en fait, le fait que l'université soit gérée par les étudiants dans un but d'autonomie intellectuelle, ben, ça, c'est un peu aussi remis en cause par les réformes et du coup
c'est une belle opportunité pour ces groupuscules, c'est ça que vous dites?
Exactement. Et ils se sentent légitimes en fait à intervenir parce que aussi les policiers sont de plus en plus légitimes, se sentent légitimes aussi à intervenir dans les universités. C'est quelque chose de très nouveau. Et en fait,
je vous demandais de conclure, Samuel Bourreau.
Enfin, c'était simplement pour dire qu'on a des conditions, un contexte qui aussi favorise la visibilité et les actions de ces groupes.
Merci infiniment. Merci Samuel Bourreau d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chercheur en sciences sociales à Paris-Dauphine. Quelques mots seulement de la météo de demain, temps gris et humide, sauf au bord de la Méditerranée et en Corse. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.